Larouche, Jeff Fortin et Max Larouche.
7h44, vous êtes sur les ondes de BLVD 102.1 FM. Reg Higgins le matin. Je le rappelle, malheureusement, Reg qui est absent aujourd'hui. Il est malade, il a passé plus de temps aller-retour entre le lit et la toilette la nuit dernière que dans son lit. Donc, repos pour Reg ce matin. Vous êtes avec le duo Jeff Fortin, Max Larouche. Max, comment ça se déroule à la circulation ce beau lundi?
Je vous parlerai d'un lundi matin qui est habituel. Le secteur des ponts, c'est un enjeu, mais on a vu des matins bien pires. Bien sûr, c'est en direction nord. La 40 direction est entre Duplessis et Henri IV, un ralentissement qui est considérable. Capitale ouest un peu avant Henri Bourassa jusqu'à Laurentienne, c'est au rouge. Au croisement d'ailleurs, Laurentienne et Capitale, en direction sud, c'est au rouge là, pour ce qui est Laurentienne. Capitale direction est à la hauteur de Robert Bourassa. Il y a un petit ralentissement aussi. Sur Robert Bourassa, directement sud vers le boulevard Le Bourgneuf. Là, comme chaque matin, c'est au rouge, puis ça refoule jusqu'à à peu près l'avenue Chauveau. Henri IV, direction sud, Benjamin entre la route Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest. Et encore une fois, là, dans le coin de l'entrée principale de la base militaire en direction de Shannon. C'est au ralenti. Quoi que ce soit, 418-971-1021.
À la météo, je vous rappelle, c'est présentement moins 7 maximum prévu. À moins 2 cet après-midi, on prévoit un réchauffement. Moins 3 pour mardi. Et il y aura de la neige à compter de mercredi soir et jeudi. On parle d'une bordée de 5 à 10 cm. L'hiver est commencé. C'est la féerie du temps des fêtes avec décembre. On est donc bien content. Puis un qui était content de tout ça, qui nous l'a dit justement hors d'onde, c'est l'ex-enquêteur au SPVQ, Roger Ferland. Roger va venir nous parler justement de ces fameuses têtes qui sont mises à prix par les gangs criminalisés et également de prostitution juvénile. Roger, ça va bien ce lundi?
Bonjour, monsieur. Ça va très, très bien.
Good. Roger, t'aimes l'hiver, que je comprends.
Bien, il faut apprendre à profiter de chacune des saisons, je pense. Ouais. Puis l'hiver, j'adore quand il y a un peu de neige parce qu'on fait du ski alpin. J'ai des amis pas mal en ski. J'adore ça. Profiter de chacune des saisons, quand ta passe avec ses avantages et ses inconvénients.
En effet, tu as tellement raison. Roger, présence remarquée de Daniel Renault hier à Tout le monde en parle. C'est le journaliste de la presse. On a appris que sa tête avait été mise à prix en 2021 par les gangs criminalisés, notamment le délateur Silva. T'en penses quoi de ça?
Ben vois-tu, c'est une chose qui arrive à l'occasion. On l'a vu dans le passé avec Michel Auger. Mais par contre, quand tes gens des médias se font attaquer, ça devient, je dirais, la pointe ultime souvent parce que c'est eux qui transportent ton information, c'est eux qui informent le public. Souvent, on s'est fait dire, on l'a vécu dans le passé, des menaces envers des policiers, par exemple.
OK.
Ça, c'était quasiment que ça passait, ça fait partie de votre travail. Mais quand ça a tombé au procureur de la Couronne et aux juges et les journalistes, pensons à la guerre des motards à l'époque, c'est là qu'ils ont changé puis ils ont ajouté des articles de loi qui ont fait en sorte que si tu t'intimides des gens qui sont associés au système de justice ou des gens qui aident la justice, justement, bien là, c'est des crimes additionnels et pires. Je pensais pas que ça réarriverait. Mon boucher était drôlement arrogant à l'époque quand il avait fait ça, tuer des gardiens de prison, s'en prendre à mettre une liste de policiers et de juges sur sa liste à abattre. Puis il l'avait fait, puis il a passé à l'action même avec avec un journaliste. Mais là, vois-tu, des gens encore là qui se pensent un peu au-dessus des lois, ce qui était le cas de M. Silva à l'époque qui était tueur. Maintenant, il est assis avec la police.
Oui, maintenant, il est délateur. Hein?
C'est ça. Mais là, on comprend l'histoire, mais je pense que les choses peuvent arriver encore. C'est pour ça. Puis en ce moment, j'y pense des fois avec tout ce qui se déroule. Il y a une telle arrogance en ce moment chez certains groupes criminalisés. C'est toujours la question qu'on se pose. Est-ce qu'ils sont prêts à s'en prendre à n'importe qui? C'est pour ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de banaliser ça parce que c'est des phénomènes possibles, mais quand ça arrive, c'est que ça ne va pas bien. C'est que tu n'es pas capable de montrer qui dirige et qui mène à ce moment-là. Ce n'est pas l'idéal du tout.
Puis je pense que c'est ce qui a causé la surprise vendredi, c'est que c'est arrivé il y a une couple d'années, je pense que c'est 2021, dans le cas de Silva, alors que, tu l'as dit, la dernière fois, tu disais ça peut arriver à l'occasion, mais la dernière occasion qu'on sait, c'était en 2000, là. Fait que ça arrive encore, c'est ça qui a créé quasiment une confusion chez tout le monde. « Oh, Colin, ça peut encore arriver. Oui. » Est-ce que tu as l'impression que c'est encore une pratique, puis sans dire qu'il y en a bien des têtes à prix de journalistes, puis de policiers, puis de juges, puis Est-ce que c'est arrivé plus souvent qu'une fois, mettons, dans les 5 dernières années, tu penses que vraiment l'argent soit sur la table? Parce que là, l'argent était sur la table pendant une période de 2 mois de ce qui a été dit avant que Silva décide de retirer le 100 000 $. Penses-tu que ça arrive?
Je pense que ça arrive encore. La seule chose, c'est que souvent, on intervient rapidement quand ça se fait. Puis, on donne des messages clairs. Regarde ce qui se passe du côté de l'Italie. Dès que les policiers veulent s'en prendre aux grandes organisations, ça brasse. Les policiers qui interviennent sont cachés avec des cagoules. Les juges qui interviennent sont sous haute protection tout le temps. Puis on en a vu plusieurs se faire tuer, se faire abattre. C'était pas ce qu'on avait ici au Québec. C'était pas arrivé souvent, mais je suis convaincu qu'on en désamorce encore à l'occasion. Je suis convaincu parce que il y aura toujours une certaine arrogance de la part du crime organisé de penser qu'ils peuvent devenir maîtres partout après, puis surtout sur ceux qui dénoncent. Mais c'est là que j'ai envie de te dire, Max, il ne faut pas que ça soit ça. C'est là qu'il faut absolument qu'on donne les coups des franches aux policiers de dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Si vous voulez qu'on s'écrase, on peut s'écraser. Mais si vous voulez qu'on se fasse respecter, parce qu'après la police, c'est qui? C'est le dernier rempart. C'est tous ceux qui représentent la justice ou qui rapportent l'information. Fait que je pense qu'il ne faut pas qu'on le fasse. Regarde, de la même façon que regardez à quel point en ce moment, Max, on intimide nos politiciens. Je pense, à tort ou à raison, sur certaines choses. Des fois, on a le droit de ne pas les croire, mais ça va loin. C'est les gens qui représentent. Bien, si tu ne l'aimes pas, vote plus pour lui. Achète pas ses petits gâteaux. Embarque pas dans son plan.
Mais pas de menace. Là.
Mais tombe pas là. C'est c'est le jeu des faibles, ouais. Mais on s'entend, c'est quand même des choses qui arrivent.
À quel point, justement, tu parles de ça, puis qu'il faut donner du pouvoir aux policiers, faut que les policiers soient là pour intervenir. À quel point, justement, un point de presse comme vendredi du chef Denis Turcotte est stratégique, où il sort puis il dit « Hey, les gangs criminalisés, c'est pas votre ville, c'est la nôtre, puis vous êtes pas les bienvenus ici. » Y a-t-il une stratégie derrière ça? Est-ce qu'il se sent plus fort à cause, justement, des investissements additionnels que la ville fait? C'est un mélange de tout ça?
Bien, c'est un peu un mélange de tout ça, mais en fait, il faut que tu commences par donner le message en venant d'en haut. Fait que ouais. Là, il vient de donner le message. Alors, ça peut laisser entendre très clairement et aux criminels, mais aussi aux policiers. Regardez, les gars, on est avec vous. On va restructurer des choses. Et je pense qu'il y a un nouveau plan d'enquête qui s'en vient, qui nous a parlé un petit peu là, de la violence urbaine. Là.
Oui.
Il l'a exprimé dans son document.
Oui, parce que dans un sondage, énormément de personnes disaient avoir été victimes de violence urbaine sur la rue.
Fait qu'en voulant dire, là, il donne un message. Il envoie un discours, on va voir si le message tient la route, mais j'ai confiance. Denis est un gars qui était là à l'époque de la guerre des motards.
Mm-hmm.
Il a été même très impliqué, il est devenu enquêteur après ça.
Je savais pas ça.
Non, il a roulé sa bosse pas mal. C'était un gars qui était sur la surveillance physique aussi également. Là.
Ouais.
Un gars qui a quand même du terrain. Des fois, quand il monte dans les organisations, il l'oublie un peu, mais je pense que là, il a donné un signal clair comme quoi qu'il s'en rappelait, ouais. il s'en souvenait avec toute l'équipe avec qui il est. Je pense qu'il fallait qu'il fasse ça. Puis maintenant, attendons de voir maintenant si les bottines suivent les babines.
Ouais. Blood Family Mafia agit complètement différemment de ce que les Hells Angels pouvaient faire depuis ouais. plusieurs années à Québec. Ça t'inquiète-tu?
Ça m'inquiétait un peu, en partie, oui, au départ, parce qu'on sentait qu'il y avait zéro limite, les gars. Zéro limite. Par contre, il y en avait ras-le-bol contre peut-être les membres des Hells qui en abusaient un peu. Je suis capable de vivre avec ça. Mais qu'ils fassent la différence entre l'honnête citoyen, ça, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est là qu'on est rendu. C'est que là, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de respect total qui s'est installé partout. On le voit beaucoup du côté de Montréal. Mais on s'était fait dire, on pensait qu'on n'aurait pas ça ici. Bien, il y a des gens de Montréal qui ont transféré un peu partout en province
ouais.
et qui l'ont essayé, même dans les régions. Là. Sept-Sept-Îles, sur la Côte-Nord, Val-d'Or, La Beauce, partout, ils l'ont essayé. Là, maintenant, à savoir ce que les citoyens veulent, c'est pour ça que je suis content d'entendre des messages clairs comme ça de la part de M. Turcotte. Même chose côté de Montréal, on a entendu là, que oui, il y aurait d'autres arrestations, par exemple, les manifs de la semaine passée. Il faut que ça arrête.
Il faut casser cette violence-là.
On n'a pas le choix. Parce que sinon, ça va être quoi la prochaine étape? C'est là qu'on voit apparaître que les journalistes ou tes gens qui diffusent l'information aussi après peuvent y goûter. C'est pour ça qu'il y a tout... Tu sais, ce qu'on n'a pas fait d'un cours d'école ou qu'on n'a pas fait dans nos maisons comme première éducation, là, excuse-moi, il se répète après. Puis c'est ça qu'on vit en ce moment. On est en train de vivre, je pense qu'il faut donner un coup de barre. Il va falloir revenir aux bonnes places. Puis on a compris que dans M. Turcotte, son message était... prévention pour commencer là-dedans, du renseignement criminel, et on va intervenir sur le chemin et sur la route de ceux qui sont des criminels.
Les choses changent, ont changé dans le crime organisé, dans la façon de faire, dans les façons de faire. Les choses ont aussi changé en matière de prostitution juvénile.
Oui.
Puis il faut pas se fermer les yeux. Il y en a encore au Québec, il y en a encore à Québec. Puis je lisais mon journal samedi. Puis le Journal de Québec titrait que ce serait impossible de refaire une opération Scorpion qui avait shaké ce monde-là début 2000. Tu as été bien impliqué dans ce dossier-là. Pourquoi ce serait plus possible aujourd'hui avec les matières, les façons de faire qui ont changé, de refaire une grosse opération comme ça chez les policiers?
Bien, d'un, c'est toujours possible. Il faut que tu fasses des choix d'organisation. Ce qui n'est pas possible, c'est la façon que les jeunes sont recrutés en ce moment. Le fait que des jeunes filles ou des jeunes garçons embarquent là-dedans, adhèrent à ça, les valeurs n'ont pas vraiment changé. En ce sens que c'est souvent un vide émotif. C'est souvent, on veut combler un sentiment quelconque, une estime de soi. On vise le glamour, on vise l'argent, on vise la mode. C'est des phénomènes qui ont toujours été là, c'est les mêmes choses. La seule affaire, c'est la façon qu'ils se font approcher maintenant. Les médias sociaux et la désensibilisation sexuelle, j'ai envie de te dire, ont changé la donne terriblement. Là, en ce moment, il y a même, ils l'ont très bien démontré, il y a des jeunes filles qui elles-mêmes s'exposent et elles-mêmes sollicitent des gens pour dire « j'aimerais faire ça, je l'essaye », en pensant qu'elles vont être autonomes, en pensant qu'on va devenir des influenceurs, en pensant toutes ces choses-là. Alors ça, c'est les médias sociaux en ce moment. Le web a facilité ça terriblement. C'est facile, impersonnel. Et le gars n'a même pas besoin d'être sur place parce qu'il peut être à distance pendant qu'il le fait. Alors tous les contacts, encore là, puis les médias sociaux te permettent aussi de cacher souvent ton identité. On en avait à l'époque, là. Donc, quand on a fait Scorpion, il y a 20 ans, on avait un réseau qui était là, il existait, mais qui vous parlera aujourd'hui des chat rooms qui existaient? MIRC
c'est
était là.
Vrai.
Il y en avait. Et les prédateurs allaient en chercher là aussi. Mais c'était pas là. Il y en avait tellement sur le terrain que là, finalement, c'était de bouche à oreille que les gens se transmettaient.
Oui, parce qu'il y avait beaucoup de recrutement dans les centres jeunesse, notamment à l'Escale. Pour rappel, on parle avec Roger Ferlin, qui est enquêteur SPVQ, qui a été notamment à la tête là, de l'opération Scorpion. Donc, on parle de prostitution juvénile. Comment qu'on devrait travailler? Parce que là, tu as fait une petite réponse de politicien tantôt quand tu as dit « ouais, ça dépend du choix organisationnel ». Toi, Roger Ferland, là, comment tu trouves qu'on devrait travailler avec la prostitution juvénile à Québec?
Bien, je pense que si on va voir sur le terrain ce qui se passe, moi, je pense qu'on devrait venir en prévention avec nos jeunes dans les écoles.
Là. En effet.
Tout à fait.
Le chef est allé en ce sens-là vendredi,
oui,
dans son point de presse. J'ai trouvé ça intéressant.
Il est allé en ce sens-là parce qu'on a entendu les médias ces dernières semaines en parler un petit peu.
Ouais.
Avant que JE fasse le gros reportage qu'il y a là, on a entendu des gens dire « est-ce qu'il se fait du recrutement dans les écoles? Est-ce qu'il s'en fait à Lévis? Est-ce qu'il s'en fait à Québec? » Il s'en fait partout en ce moment. Arrêtons de penser qu'il s'en fait pas. Il s'en fait. On est-tu prêt à intervenir? Souvent, c'est parce qu'en ce moment, Jeff, on attend que les gens viennent nous voir porter plainte.
Mm-hmm.
Si tu attends, d'après moi, tu
t'en
vas en attendre longtemps.
Pas,
tu
ça.
Vas en avoir, mais tu n'en auras pas.
Parce
beaucoup.
Que c'est le lien de confiance qu'il faut que tu crées. Moi, pour l'avoir déjà vécu comme animateur au Patro Laval, on avait des policiers qui venaient faire du sport avec nous le vendredi.
Oui.
Lien de confiance se crée. Fait qu'après ça, hey, attends une minute à l'école, il y en a un qui essaye de recruter, il y en a un qui essaye de vendre de la drogue, tu le quittes. Pas que l'information se donne là, là.
Tu viens de le dire exactement 100%. Puis c'est ce qui se passe en ce moment. Tu vas voir tes entraîneurs sportifs de n'importe quelle école. Tu vas savoir en ce moment qu'il y a des jeunes qui suivent des organisations, il y a des gens qui suivent des équipes sportives et qui vont profiter de la manne d'avoir du public qui est là sur place. Et ils arrivent là et il y a une nouvelle façon de faire la présentation. Mais le stage est là pareil, là, dans le sens que ils viennent présenter leur galerie, les filles qui ont réussi, le restant, le glamour, la belle vie. Toutes les valeurs en ce moment, j'ai envie de dire un peu faunées, qu'on se fait présenter et qu'on présente à nos jeunes sans arrêt. C'est pour ça que si tu n'es pas significatif et de faire ça d'avance, en prévention, tu vas passer à côté. Oui, on peut attendre. C'est clair, attendre que les gens viennent nous voir. Mais je pense qu'on est capable d'être plus proactif que ça et de sensibiliser les gens. Je le dis moi-même à mes jeunes étudiants à l'école. Ils ont 19 et 20 ans. Ils n'étaient même pas là à l'époque de Scorpion.
Non,
alors,
ça.
Tu lui parles de ça et c'est
ça, pas c'est quoi?
Ça ne tient même pas la route. Là, mais regarde les grosses enquêtes qu'on a vues ces derniers temps. Le dossier Miller à Montréal. Là,
Robert Miller.
C'est majeur comme histoire. Là, puis tout le réseautage qu'il y avait à côté. Puis moi, je sais que j'ai revu des anciens clients sur le terrain ici à Québec. Puis il y avait des filles dans leur auto qui avaient encore des âges qu'ils méritaient une vérification. Je ne suis plus police, je n'irai pas le coller. Mais je suis capable de voir ce qu'il y en a. Ah, il va me dire que c'est une nièce ou c'est une cousine qui est dans son char. C'est toujours la première réflexion qu'on a. C'est un crime que si tu ne grattes pas, tu vas avoir de la misère à aller chercher si tu ne fais qu'attendre les plaintes.
Mais justement, parlons-en de la façon d'enquêter. Parce que je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Scorpion, ça a été 8 mois d'enquête, 60 de victimes, 20 de proxénètes, puisque je lisais encore dans l'article du journal qui découlait de l'émission de JE, c'est que à cette heure, quand tu sais qu'il y a une victime, ben tu te permets pas d'attendre une couple de mois pour avoir le plus d'éléments de preuve, je vais le dire comme ça, possible. Faut que tu passes à l'action là, il y a une victime. Fait que de ce que je comprends, parce que j'étais pas vraiment là non plus au moment de l'opération Scorpion, mais que c'est dans le temps, on se permettait peut-être de, en guillemets, attendre, on n'attendait pas, on était proactif, mais de se laisser le temps d'accumuler de la preuve alors qu'aujourd'hui, c'est plus quelque chose qu'on fait?
Bon, je vais te donner les données claires, Max, parce que c'est le fun là, que tu poses la question. À l'époque, là, on n'a pas attendu. À l'époque, là, c'était, on avait des doutes qu'il y avait un réseau à telle place. On avait des doutes qu'il y avait du racolage à telle place. Alors, on a demandé de l'écoute pour confirmer ça.
Okay.
On est allé après ça prendre les déclarations, mais tout de suite, en fait, on s'est fait demander qu'après 15 jours, on interrompe. Et c'est pas 15 jours, on a réussi à se rendre à 30 jours parce qu'on n'était pas capable de préparer l'opération. Il y avait trop de gens à arrêter. Mais jusqu'à ce qu'on aille retirer les filles de la rue, on voyait des filles qui allaient avec des gens dans des chambres, à des endroits, mais tu n'avais jamais la certitude qu'ils étaient en train de faire la prostitution parce que ni à leurs parents, ni au directeur d'école, ni à leurs amis, officiellement, ils ne le disaient. Ça a pris qu'une intervention massive, une journée, d'aller ramasser une trentaine de jeunes filles, les retirer de la rue officiellement et les confronter à la preuve qu'on avait, surveillance physique, écoute électronique, certaines affaires, et que là, qu'ils nous ont dit... OK, en partant à pleurer, oui, c'est vrai que j'en fais de la prostitution, voici quoi, voici les clients, voici tout ça. Et le lendemain, on arrêtait déjà les clients.
C'est d'avoir la preuve qui est un job.
C'est ça. La vérité, ça a pris 30 jours. C'est 30 jours d'enquête officielle qu'on a faite là-dedans, un blitz fort. Il y a eu 3 mois qui ont précédé, mais les 3 mois, c'était uniquement des entrevues avec certaines qui avaient fini. C'était fait, supposément, qu'ils nous disaient.
Ouais,
je l'ai fait, c'était qui? Pour essayer de découvrir où sont nos places, où sont les endroits. En fait, on était en planning de savoir qui vont être les prochains. Mais notre premier objectif, puis c'était très clair, entendu avec le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice, tolérance zéro. Si une jeune fille est dans le trouble, vous intervenez immédiatement. Okay. Vous débarquez tout de suite.
On la sort de là.
Tout de suite. Okay. Et c'est arrivé à 2 reprises à un moment donné que pendant l'écoute électronique, on s'est rendu compte que, Colin, il se passe de quoi? On pense que ce soir, il risque d'avoir un gang-bang pour une fille. Bien, on a vérifié avec les parents. On s'est assuré ce soir-là. Mère dit non, ma fille ne sort pas. Ah, bien, vérifiez. Moi, je pense qu'elle va sortir tantôt. Puis arrangez-vous pas qu'elle sorte. Parce que si c'était le cas, on surveillait. Puis si c'était le cas, il fallait qu'on intervienne. Mais effectivement, elle n'est pas sortie ce soir-là. Mais c'est sûr qu'elle...
Fait que vous avez travaillé en prévention avec le milieu familial.
À une couple de reprises, tout à fait, et les gens étaient prêts. Mais c'était très court. Puis t'as raison, Max, il n'y avait aucune tolérance pour nous. Il n'était pas question plus de tolérer. C'est pas qu'on a toléré, c'est qu'on a fait un choix. Et comme on avait mis de l'écoute, ça, c'est particulier. Et on avait des ressources qui nous avaient été données. Il y en a encore des ressources aujourd'hui, on peut les avoir, mais ils vont toujours demander « qu'est-ce que ça va rapporter si je te le donne? » C'est toujours avantage et inconvénient de mettre des ressources qui vont travailler.
C'est
terrain.
Ça qui manque.
C'est ça qui manque. Mm-hmm. Il y en a. Le ILP, c'est une excellente boîte. C'est magique en ce moment, tout ce qu'ils font, mais ils ne vont pas... Ils vont en chercher, mais ils ne vont pas souvent chercher des crimes initiés. Si on leur demandait à l'équipe de dire « OK, on vous dégage 2, 8, 10 personnes », puis aller me voir ce qui se passe comme situation, faire un blitz, je suis convaincu qu'ils pourraient le refaire. Même si la technologie a changé, oui, on s'adaptera encore là. Mais c'est toute cette décision-là qui est à faire tout le temps et on n'a pas toléré à l'époque. Puis c'est vrai que aussi nous, on les a laissés tout ensemble dans le même amalgame parce que les gens profitaient du fait, comme un peu comme les BFM en ce moment. Les BFM, ce n'est pas un groupe officiel. C'est des gens qui se rallient en dessous du même label. À l'époque, quand il y a eu Scorpion, la gang de Proxénète a
le
utilisé
Wolfpack.
Le Wolfpack, le mot Wolfpack, Limoilou Star, Limoilou Style.
Ouais, ouais.
Mais ça, c'était des noms qui existaient. Il y avait une équipe de musique qui roulait, qui était très honnête là-dedans. Mais à côté d'eux, il y avait des racoleurs.
Ouais.
C'est tout ça qui s'est fait. Mais comme ils ont utilisé le même logo, le même label, on est resté sur ça. Mais officiellement, il y avait trois, même quatre équipes différentes là-dedans. Fait que c'était des gars qui faisaient un peu comme on a encore aujourd'hui. Un gars a deux, trois filles, un gars a quatre, cinq filles, mais on a pu démontrer qu'avant, il y en avait deux, trois autres. Les mois précédents, il y en avait encore d'autres. Alors, fort des déclarations antérieures, on ne peut avoir de l'écoute électronique. Avec l'écoute électronique, on a regardé rapidement ce qui se passait dans la situation et on a donné un coup de barre en disant, parfait, on arrête et client et proxénète et on retire les petites filles de la rue. Ça, c'était exceptionnel. Puis c'est ça qui est difficile à faire parce que ça demande, cette tâche-là tripartite est très dure à faire. Ça, on ne se le cachera pas, là. C'est ça qui a fait que, même si on avait 38 jours d'écoute, ça l'a débordé. On avait 30 filles, bien, ça a monté à 70, presque, nouvelles informations qui ont rentré. On a eu 60 victimes qui
sont venues. Ça aurait pu continuer après ça.
C'était là, on était capable de savoir déjà dans les centres de jeunesse qui recrutait. On s'est rendu compte qu'il y avait même du racolage. Et quand ils disent en ce moment que le pipeline est là, oui, ça sera toujours une difficulté, les centres de jeunesse, parce que les jeunes dans ces centres-là ont déjà des difficultés émotives.
Le même principe que les prisonniers qui s'en vont en prison, qui sortent de prison puis qui refont des mauvais coups avec d'autres
Exactement.
Prisonniers.
Il y a un volet estime de soi. Il faut le travailler, mais on vit des difficultés avec lesquelles on est pris.
Mm-hmm.
C'est pour ça. Est-ce qu'on peut garder ça en permanence? Non. Mais ce qu'ils ont fait après l'enquête sur la prostitution juvénile, ils ont mis des budgets temporaires, puis après ça, permanents. Maintenant, l'escouade intégrée de lutte au proxénétisme, ils font en province de Québec au complet. Alors, ils mettent des ressources un peu partout. C'est excellent. Mais si on voulait faire des blitz, c'est faisable encore. Mais ça va demander des coûts, de l'argent et de la difficulté. Puis, elle n'a pas pensé que c'est facile. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce qu'il n'y a pas un parent qui a envie de dénoncer en ce moment, de dire officiellement « Ma fille, c'est une prostituée, viens la voir. » Non, non, attends un peu deux minutes.
Puis il n'y a pas de petites filles qui sont prêtes à parler, à moins d'être vraiment dans des situations où ils vont être accolés au pied du mur.
Exactement. Là, c'est le phénomène, la même chose que la violence conjugale, le phénomène une lune de miel avec de la violence, de la coercition. Puis après ça, ils sont dominés et il y a des moments où c'est facile d'entrer en contact avec eux, vraiment, c'est beaucoup plus difficile. Il y a tout un cycle complet qui est là encore, qui est en place. C'est pour ça que c'est loin d'être évident et simple à faire. Puis c'est des ressources que, après ça, ça demande du temps de cours. Après ça, tu veux être capable de les faire condamner. Ça, c'est la deuxième difficulté. Au final, Max, ça nous a pris 4 ans à le finaliser, poursuite civile inclus. C'est pour ça qu'une enquête officiellement de 38 jours t'amène à toutes ces choses-là. Est-ce que les organisations ont encore envie de le faire? Ça, c'est ta deuxième question qu'il faut se poser.
Oui, exactement. Puis ça, bien, présentement, avec la guerre du crime organisé, bien, ce que je sens qu'on soit, c'est que, justement, là, les ressources sont plus mis là. Roger Ferland, je te remercie infiniment pour ta présence ce matin, encore une fois, à Rage Against le matin. C'est toujours un plaisir. Je te souhaite une excellente semaine avec tes élèves.
Ils sont en évaluation cette semaine. On les pèse, savoir qu'est-ce qu'ils sont bons pour faire en entrevue.
Ah, bien, parfait. C'est écœurant. Puis au plaisir de se reparler la semaine prochaine. Merci, Roger, pour ta présence encore une fois ce matin.
Bonne journée à vous, gars.
On fait une courte pause et par la suite, ce qui nous attend dans la prochaine heure, on va parler avec Marie-Josée Morancy, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Lévis sur le moratoire sur la construction de logements à Lévis dans deux secteurs clés de la ville. Et on va également recevoir Boromir Vallée-Doré, directeur général Réseau Solidarité Itinérance du Québec. On va faire l'évaluation des états généraux sur l'itinérance qui ont eu lieu à Québec la semaine dernière. Restez les nôtres, vous êtes sur Boulevard 102.1, Rage Against le matin.